ramène deux titres à la maison. On bat le Japon chez eux. C'est magique, son vie.
C'est magique.
C'est magique.
Je crois que c'est le mot, c'est magique.
La joie de Clarisse Agbenienou et Teddy Riner, l'or pour les judokas français au Japon. On parle de l'exploit du jour dans un instant et de la moisson de médailles d'argent de la France, notamment en planche à voile, sabre et rugby féminin à 7. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé contre le pass sanitaire dans toute la France. Cet après-midi, nous serons dans l'une des quatre manifestations parisiennes qui se terminent. Trois premiers patients martiniquais sont transférés en ce moment de la Martinique vers les hôpitaux parisiens de la Pitié-Salpêtrière, Georges Pompidou et Henri Mondor à Créteil. Mesure de désengorgement des lits en Martinique où l'épidémie flambe. Fin de l'alerte enlèvement, le petit garçon de 8 ans kidnappé hier par son père a été retrouvé sain et sauf dans un champ à Plouarette, à quelques kilomètres de Lannion dans les Côtes d'Armor. La difficile reprise du tourisme à Paris avec le variant Delta et sans les touristes américains et asiatiques. Et puis nous reviendrons sur la carrière du leader du groupe Kassav, Jacob Desvarieux, décédé des suites du Covid à 65 ans.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est une très belle journée pour les athlètes français au JO de Tokyo. On en est à 19 médailles. D'abord, bonsoir Axel May.
Bonsoir.
D'abord, cette très belle victoire de l'équipe mixte de judo face au pays du judo, le Japon. Gagner sur les terres de notre sport en équipe, c'est fantastique, incroyable, a tweeté Teddy Riner. Axel May, c'est donc une très belle médaille d'or.
Oui, à l'heure où l'on se parle, la nuit est déjà bien avancée au Japon et je peux vous garantir que les Français ne sont pas encore couchés. Se permettre, comme vous le disiez, de battre chez eux les Japonaises et les Japonais dans cette épreuve par équipe mixte qui a fait son apparition au programme olympique, il fallait le faire et les Bleus, Sarah Léonie Sizi, Clarisse Agbenienou, Robin Dicko ou encore Axel Clergé et Teddy Riner l'ont fait.
Première édition des Jeux Olympiques à Tokyo, là où tout a commencé et on a gagné contre le Japon. Qui aurait cru?
Et on l'a fait.
Teddy Riner devant les caméras de France Télévisions et la voix féminine, c'est celle de Clarisse Agbenienou qui repart avec deux titres olympiques puisque Niu-Niu, son surnom, a gagné l'or en individuel aussi.
Ah donc, alors avec cette, au-delà de cette très belle médaille française en judo, une belle moisson également de médailles d'argent.
Oui, oui, écoutez bien, de l'argent en sabre par équipe féminin, de l'argent en rugby à 7 féminin, de l'argent en planche à voile chez ces dames avec Charline Picon et chez ces messieurs avec Thomas Goyard. Et puis, vous ajoutez le bronze tôt ce matin, les triathlètes en relais mixte. Cela fait 6 médailles pour la journée et les Bleus remontent à la 8e place au tableau des médailles dominées par la Chine devant le Japon et les États-Unis. Réaction des médaillés à suivre dans le journal des Jeux à 18h50. Et puis je vous parlerai aussi des autres résultats du jour quand même, notamment d'un triplé jamaïcain sur 100 mètres féminin en athlétisme.
À tout à l'heure. Merci Axel May. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans toute la France contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Il n'y a pas encore de chiffres officiels du côté des autorités. 150 000 personnes étaient attendues. Selon le décompte de l'agence France Presse, plus de 20 000 personnes ont défilé dans des grandes villes du Sud-Est, Montpellier, Nice, Aix, Marseille. À Paris, il y avait quatre manifestations distinctes. Johanna Chabas, vous avez suivi pour Europe 1 l'une d'elles, animée par l'ex-bras droit de Marine Le Pen, Florian Philippot, entre Villiers et la Bastille. Les manifestants ont marché plusieurs heures dans une ambiance assez bon enfant.
Oui, aucun heurt dans ce rassemblement parisien. Les manifestants ont marché tranquillement en scandant des slogans contre le gouvernement. Des familles, des jeunes et des personnes âgées, cette manifestation a rassemblé un public très varié avec des revendications tout aussi diverses. Certains sont contre le vaccin, d'autres ont des arguments complotistes. Pour Léa, rien de tout ça, c'est contre le pass sanitaire qu'elle a marché. Elle y voit une obligation vaccinale déguisée.
Ce vaccin, il n'était pas censé être obligatoire et on fait tout pour le rendre obligatoire en nous disant si vous ne pouvez pas vacciner, on ne va pas au resto. Si on ne peut pas vacciner, on ne peut pas aller au ciné. Il n'y a rien de compliqué, évidemment, se faire vacciner, il n'y a pas de complication. C'est plus une question de principe et de chantage. Pourquoi nous obliger à le faire en fait? Qu'est-ce que ça pourrait changer pour eux?
Après leur marche, les manifestants se sont arrêtés devant le ministère de la Santé où des figures du mouvement contre le pass sanitaire comme Florian Philippot ont pris la parole. Dans la foule, beaucoup avaient déjà manifesté les semaines précédentes et envisagent de continuer le mouvement comme Mathilde.
Pour moi, je suis convaincue qu'on arrivera, mais il ne faut pas rester chez soi, il ne faut pas rester devant son canapé, il faut se bouger et se bouger plus que jamais. S'il y a encore d'autres samedis, je reviendrai encore d'autres samedis. Tant que je pourrai, tant que mon corps me le permettra, je bougerai. Ouais.
Un message entendu par les organisateurs. À la fin du rassemblement, sous les applaudissements de la foule, ils ont appelé à se retrouver la semaine prochaine.
Reportage de Johanna Chabas dans l'une des manifestations parisiennes. Trois patients martiniquais atteints d'une forme grave du Covid sont à bord d'un avion médicalisé qui doit les amener dans les hôpitaux parisiens dans la soirée. Un premier transfert pour désengorger les hôpitaux de la Martinique, débordés par l'afflux de patients. Des malades soigneusement choisis par les équipes médicales pour qu'ils puissent supporter les 8 heures de vol, Florent Aussu.
Oui, car il fallait déterminer les cas les plus graves parmi ces patients, mais aussi choisir ceux qui vont pouvoir supporter ces 8 heures de vol au-dessus de l'Atlantique. Les équipes du CHU ont également dû obtenir l'accord des familles pour cette évacuation vers les hôpitaux de Paris. C'est dans la plus grande discrétion que ces trois patients ont quitté le service de réanimation ce matin. Un important dispositif médical a été mis en place pour les accompagner avec des médecins et des infirmières. C'est à bord de trois ambulances privées sous escorte des gendarmes qu'ils ont rejoint l'aéroport Martinique-Aimé Césaire pour être embarqués à bord d'un Falcon. Ils seront médicalisés tout au long de ce transfert et sont désormais attendus par les équipes des hôpitaux de Paris.
Florin Aussu en Martinique pour Europe 1. L'alerte enlèvement déclenchée ce matin pour retrouver un petit garçon de 8 ans a été levé dans l'après-midi. Dewi, kidnappé hier à Lannion en Bretagne par son père qui n'avait pas le droit de le voir seul, a été retrouvé sain et sauf à quelques kilomètres de là, Jean Jacquéry.
Oui, d'après le parquet de Saint-Brieuc, l'enfant et son père ont été retrouvés vers 15h cet après-midi dans un champ. Tous les deux, sains et saufs, ils se trouvaient à Plouarette, à une dizaine de kilomètres environ de l'endroit où avait été retrouvée la voiture du ravisseur présumé, et une quinzaine de Lannion, là où Dewi avait été enlevé hier matin. Un important dispositif avait été déployé ces dernières heures. 70 gendarmes étaient mobilisés pour les opérations de recherche et de renseignement. Ils étaient assistés d'un hélicoptère et d'une équipe cynophile spécialement envoyée en renfort depuis Rennes. Et c'est un renseignement qui a aiguillé les gendarmes, les fugitifs ayant été aperçus sur la zone. Tous les moyens de recherche y ont été immédiatement déplacés. Ensuite, c'est allé très vite et toujours selon les gendarmes, il n'y a pas eu de difficulté lors de l'interpellation. C'est donc l'épilogue de cet affaire débuté hier matin lorsque le père avait enlevé son fils dans les locaux d'une association dépendante des services sociaux. C'est là que le père de l'enfant de 8 ans pouvait rencontrer son fils dans le cadre d'un droit de visite, puisque Dewi était placé en famille d'accueil. D'après le bureau du procureur de Saint-Brieuc, l'enfant est en bonne santé et selon nos confrères de France Bleu, il va subir des examens médicaux avant d'être remis à sa famille d'accueil. Le père, lui, va être placé en garde à vue.
Merci Jean-Jacques Herry. On entend un petit peu d'émotion dans votre voix. C'est votre dernier papier en direct au micro d'Europe 1.
Merci beaucoup à vous et merci aux gens.
Petit clin d'œil pour
travaillé.
Les auditeurs aussi, voilà, qui vous entendent pour la dernière fois à ce micro. Merci et bon vent.
Merci à vous aussi.
Une reprise difficile pour le tourisme à Paris cette année après 2020 où l'Île-de-France avait déjà connu une chute de 33 millions de touristes par rapport à 2019. Sans les Américains et les Asiatiques, les hôtels et les lieux touristiques de la capitale restent bien vides. Et ce mois d'août risque d'être encore plus compliqué avec les nouvelles restrictions liées au variant Delta. Au reportage de Zoé Pallier.
Au pied de la Tour Eiffel, on entend désormais plus de conversations en français qu'en mandarin ou en japonais.
Moi, je viens de Paris.
De Paris.
De Paris.
De Paris.
Moins de visiteurs étrangers et donc moins d'activités pour Victor. Il conduit les touristes à travers la capitale.
On attend plus longtemps pour prendre des clients. Avant, c'était toutes les 30 minutes. Maintenant, on peut attendre des fois 3 heures, ça dépend.
Pas d'Américains ni d'Asiatiques, mais quelques Européens. Victoria et Gabriel vivent en Allemagne. Ils sont ravis de s'offrir un tour en bateau-mouche sans faire des heures de queue.
On serait venu quoi qu'il arrive, mais c'est vrai qu'il y a moins de monde. Les restaurants sont moins bondés, c'est plus facile de circuler, c'est mieux.
C'est mieux pour nous, mais j'imagine que ça ne l'est pas pour l'économie.
L'économie et surtout l'hôtellerie. 40% des établissements restent fermés à Paris. Franck Delvaux est le président de l'Union des métiers de l'industrie et l'hôtellerie Île-de-France.
Entre juin, juillet et août, on attendait à peu près 5 millions de touristes sur Paris-Île-de-France. Je pense qu'on sera en dessous, puisqu'avec le variant Delta, on constate qu'il y a des touristes étrangers qui annulent leur séjour à Paris.
Franck Delvaux qui compte sur la Coupe du Monde de rugby en 2023 à Paris, puis sur les JO en 2024 pour permettre au secteur du tourisme de remonter la pente.
Reportage signé Zoé Pallier. Le Groenland subit un épisode de fonte massive des glaces. Une fonte de 8 milliards de tonnes de glace par jour. C'est deux fois plus que d'habitude à cette période. Une vague de chaleur a fait grimper le mercure jusqu'à 23,4 degrés cette semaine dans le nord-est du Groenland. Groenland. C'est 10 degrés de plus que les normales saisonnières. Heureusement, un début d'été relativement frais avec des chutes de neige et de la pluie permettent au recul de la calotte glaciaire de rester dans la moyenne historique à ce stade. Les abandons d'animaux en nette augmentation cette année selon la SPA. Les refuges sont habituellement pleins à partir de la fin juillet, mais cette année, ils sont déjà saturés depuis fin juin. Conséquence des adoptions pas forcément réfléchies au moment des confinements. Vous l'avez constaté dans ce refuge SPA de Vaux-le-Pénil en Seine-et-Marne, Claire Laïs.
Dans l'immense enclos pour chats, plus une seule place de libre. Alors certains propriétaires abandonnent leurs boules de poils sans prévenir. Céline, la responsable du site, en retrouve dans des cartons devant la grille du refuge. Et côté chien, il ne reste que quelques boxes.
Donc là, vous avez Doug, qui est un golden retriever de 13 ans, qui a été retrouvé errant et qui n'a pas été réclamé par ses propriétaires. Il n'aime pas trop la solitude, parce que dès qu'on ne s'occupe pas de lui, comme vous pouvez l'entendre, il se met à aboyer, donc il a besoin de m'être présent. Mais oui, mon Doug.
Parmi les animaux abandonnés, Céline compte beaucoup de chats, de chiens et de rongeurs adoptés pendant le dernier confinement.
Toutes les adoptions coup de cœur non réfléchies. On s'ennuie, on est en confinement, on est chez nous, on prend un animal et puis là, en effet, bah, c'est les vacances, donc il faut les placer, il faut les faire garder. Les gens ont tendance à abandonner parce qu'ils n'ont pas anticipé.
Seule solution, trouver de nouvelles familles pour tous ces animaux. David et Jérôme ont sauté le pas, ils adoptent deux chatons.
On a envie de tous les prendre, mais bon, on n'a pas une maison qui fait 3000 mètres carrés de terrain, donc deux, c'est déjà bien.
Du coup, je vous amène les loulous.
Ça marche. On sauve deux petits pépères et puis ouais, c'est une nouvelle vie qui commence pour eux et pour nous.
Dans le refuge, 100 chats et presque autant de chiens attendent encore leur tour.
Reportage en Seine-et-Marne de Claire Leys. Le leader du groupe de Zouk, Kassav, est décédé des suites du Covid-19. Jacob Desvarieux, guitariste guadeloupéen, véritable phénomène depuis les années 80, avait 65 ans. C'est lui qui avait fondé le groupe et donc littéralement inventé le Zouk, Laura Taouchanoff.
Si son nom ne vous dit rien, vous reconnaissez très certainement cette voix rocailleuse et douce sur ce morceau. Le zouk, c'était son médicament, notre médicament. Plus de 40 ans à faire danser le monde entier au rythme de cette musique antillaise avec son groupe Kassav. Grâce à lui, la Guadeloupe reçoit un premier disque d'or en 86 et une victoire de la musique en 1988. S'en suivront des Zéniths, des Bercy, le Stade de France pour ses 30 ans et la Défense Arena, la plus grande salle d'Europe. Bref, Jacob Desvarieux peut se vanter d'avoir fait danser beaucoup de monde jusqu'en Afrique où le succès prend tout de suite après son premier concert en Côte d'Ivoire en 85. Avec lui, c'est la naissance de l'afro-zouk, toujours très populaire sur le continent africain aujourd'hui. Mais le père du zouk ne se sert pas uniquement de sa voix pour ses tubes, il l'élève aussi pour dénoncer le manque de mixité dans les médias ou au cinéma et pour rappeler que cette musique, le zouk, ne sert pas uniquement à faire la fête, mais aussi à accompagner des mouvements identitaires aux Antilles.
Merci Laura Taouchanoff. En Formule 1, Lewis Hamilton, pilote britannique de l'écurie Mercedes, partira en pole position au Grand Prix de Hongrie demain. Il vise une historique 100e victoire.
L'été, c'est avec ou sans soleil. Mais la rentrée, c'est surtout l'esprit léger grâce aux solutions de garde d'enfants de la Compagnie des Familles. Tout de suite, la météo.
Pour demain, le temps reste mitigé, Marlène Duret.
Mitigé, oui, sur une grande partie du pays, un ciel changeant qui déversera parfois une averse à un moment donné ou à un autre de la journée. Journée qui débutera d'ailleurs sous un ciel bien encombré et pluvieux du sud de l'Alsace aux Alpes. Malgré quelques apparitions du soleil l'après-midi, l'activité orageuse reprendra du service dans cette partie de la France, de même que les averses mêlées, parfois des coups de tonnerre, se multiplieront au nord de la Loire jusqu'aux régions du Grand Est. Le pourtour méditerranéen et l'île de Beauté feront figure d'exception, il fera très beau, au prix d'un vent désagréable, notamment sur le littoral varois et les extrémités corses. L'après-midi, les températures maximales atteindront 25 à 27 degrés des plaines du Roussillon à la Provence, 28 à 31 sur la Côte d'Azur ainsi qu'en Corse. En revanche, elles devraient plafonner à 20-24 degrés partout ailleurs.
Merci Marlène Duret.